au plaisir d'insolence.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'émission qui prend le temps de parler littérature.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Elisabeth Antebi pour Au plaisir d'insolence, l'émission qui prend le temps de parler littérature, reçoit aujourd'hui deux personnes tout à fait extraordinaires à plusieurs sens du mot, hors de l'ordinaire. L'une est traductrice, directrice de collection, cinéaste et bien d'autres choses, c'est Hélène Châtelain. L'autre est un écrivain qui a déchiré, comme disent les gamins, en arrivant en janvier 2008. C'est une aventure un peu extraordinaire parce qu'il semblerait que c'est un libraire de Tulle qui a commandé, qui s'est passionné pour la chose, qui a commandé un tas de bouquins. Du coup, ça a été un énorme succès d'estime et de... Pas seulement d'estime, hein, il y a eu beaucoup d'exemplaires vendus, mais il y a eu des... On s'est passé le mot, voilà. Et le mot est arrivé jusqu'à nos oreilles. Et nous voilà ensemble. Alors, bonjour Hélène Châtelain.
Bonjour.
Bonjour Vassili Golovanov.
Bonjour.
Vous avez apporté le gros bouquin de Vassili, Hélène, Éloge des voyages insensés, qui est barré d'une bande noire, blanc sur noir, avec le prix Laure Bataillon que vous avez gagné tous les deux de la meilleure œuvre traduite. Voilà. Alors d'abord, où êtes-vous allé le chercher? Qu'est-ce que c'est que le prix Laure Bataillon, en deux mots?
C'est un prix que dirige depuis plusieurs années, déjà depuis longtemps, parce que c'est le deuxième prix qu'on a chez Verdier. On en a eu pour une traduction de Harms. C'est un prix qui a le mérite d'associer pratiquement sur le même plan les traducteurs et les auteurs. Donc une espèce de maison des étrangers, des auteurs et traducteurs étrangers qui s'est basé à Saint-Nazaire et qui est un pôle littéraire très très important.
Alors, on ne va pas revenir sur Saint-Nazaire, c'est une grande, longue histoire, parce que vous travaillez avec Armand Gatti,
oui,
qui était sur Saint-Nazaire. Enfin,
ils vont préparer un livre, d'ailleurs, donc l'année prochaine, on ira là-bas.
Voilà.
Mais ça, c'était juste un coup, comme on dit comme ça. Ce qui est drôle, c'est que c'était les dissidents russes qui étaient... Donc, on a brusquement, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'harmonique entre le fait d'arriver avec Vassili aujourd'hui et d'arriver avec Boukovski il y a... 30 ans, je crois.
Voilà. Oui, il y a 30 ans, j'y étais, alors je me rappelle. C'est pour ça que ça me touche particulièrement, parce que Vassili a écrit une phrase terrible pour nous autres qui avons tant combattu pour sortir des gens et pour que les choses changent. Donc je lis la phrase que vous pouvez peut-être me dire en russe, depuis l'effondrement du communisme et la chute du mur de Berlin, nous n'avons plus d'ailleurs. C'est cet ailleurs sans lequel aucune création n'est possible que nous cherchons. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il fallait garder le mur, Vassili?
Je ne m'en souviens pas de cette phrase-là. C'est pourquoi je suis en hésitation.
Elle est sur votre livre, là.
Peut-être.
Ива Прос, это значит ли это, что стена не должна была бы падать? Вот. Это вопрос, который она вам ставит. Donc, je traduis votre question. Est-ce que ça voudrait dire que le mur n'aurait pas dû tomber?
Вопрос с Берлинской стеной, он всегда такой сложный, потому что...
La question du mur de Berlin a toujours été très compliquée.
Она должна была быть разрушена.
Le mur devait être détruit.
Но в то время, когда она разрушалась и когда в Москву привозили кусочки Берлинской стены как символы свободы.
Mais lorsque le mur est tombé et qu'on a porté à Moscou des petits morceaux du vrai mur de Berlin comme signe de la liberté.
Мы надеялись на это были самые радужные надежды, самые прекрасные.
C'était les espoirs les plus.
Демократия, объединение с то, что называли гуманитарными ценностями, что сейчас это войдет в нашу жизнь.
C'est que c'était un moment d'espoir fou, le plus beau qu'on ait eu, parce que c'était l'espoir qu'ils allaient rentrer dans une espèce de courant d'humanisme et qu'ils allaient rentrer dans un courant commun avec L'humanisme, avec l'humanisme rêvé de l'Europe.
Вместо этого очень скоро Россия вошла в такой глобальный мир. Она не вошла в мир гуманистических ценностей такой, в прекрасный мир гуманизма, да? Она вошла dans le monde global avec toutes ses difficultés.
Donc la Russie n'est pas rentrée dans le grand globe humanitaire ou humaniste, mais elle est rentrée dans un autre monde global avec tout ce que ça peut supposer de difficultés, de complications et de, mais qui ne n'était pas habité par les valeurs sur lesquelles ils comptaient et qu'ils espéraient.
Я бы не хотел, чтобы наш разговор он так однозначно скатывался в политику.
Je n'ai pas envie que notre conversation tombe directement dans un discours qu'on pourrait croire politique.
В частности, к вопросу о Берлинской стене, c'est fini, c'est
le mur est détruit, quoi.
Было интереснее, гораздо интереснее попробовать выйти из советского ментального пространства в какой-то в пространство большого мира и попробовать мыслить на этом уровне.
C'est-à-dire que pour lui, ce qui est le plus important, le plus intéressant, c'est d'essayer de sortir de la mentalité, de la problématique soviétique pour essayer de rentrer dans une pensée et un langage qui serait ce langage des valeurs humanistes dont il parle.
Alors, j'aimerais qu'on raconte quand même, si on peut dire, le livre pour savoir de quoi nous parlons, parce que c'est un livre, on a déjà entendu que Vassili Golovanov n'est pas tout à fait un écrivain comme tout le monde, si tant est que les écrivains soient comme tout le monde et les uns que les uns ressemblent aux autres. Voilà, l'éloge des voyages insensés, on peut le raconter différemment, c'est l'histoire de quelqu'un qui est dans un premier temps, qui est déçu de sa vie et qui qui s'embrouille avec sa femme, avec son monde, avec tout cela, et qui part vers une île polaire, une île de l'Arctique qui s'appelle Kolguev, au sud-ouest de la mer de Barents, je crois, qui est une sorte, c'est un lieu qui existe à la fois et qui n'existe pas. Vous me dites si c'est faux. C'est un lieu qui existe sur la carte et puis c'est un lieu qui devient rêvé et imaginaire avec des détails extrêmement précis dans la description. Et plus les détails sont précis, plus l'île devient presque imaginaire. Est-ce que c'est une définition qui vous irait ? Je peux finir quand même l'histoire. C'est impossible de finir l'histoire parce que ce n'est pas une histoire. C'est en même temps l'histoire de quelqu'un qui revient trois fois dans cette île, qui découvre les gens, les minéraux, les paysages, les choses. Mais c'est aussi, il y a un basculement vers le rêve. D'ailleurs, le découpage est intéressant puisqu'il y a le livre, la première partie, c'est le livre du rêve. La deuxième partie, c'est le livre de la fuite. La troisième partie, c'est le livre de l'expédition. Et la quatrième partie, c'est le livre des destins, qui est suivi d'annexes. Et alors, dans l'annexe, on redécouvre encore des choses racontées par des gens dont on ne sait pas dans quelle mesure c'est une recréation de Vassili Golovanov, mais dont on pense qu'en effet c'est signé par ces gens-là. Mais la dernière qui parle, c'est Gela Grignova, qui raconte une histoire qui est une légende, qui finit sur des êtres mythiques, les Cides, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et il semble, d'après ce que vous racontez, que Gela, c'est l'aimée, c'est celle vers laquelle il revient, non ? Voilà. Donc, tout cela est une histoire extrêmement complexe où vous allez à la recherche de vous-même. Vous retrouvez l'aimé, finalement, à la fin, ça finit bien. Et l'aimé se retrouve avec les êtres mythiques que sont les Cides. Est-ce que j'ai bien raconté ?
Действительно, эта книжка сложная, она имеет несколько уровней.
C'est effectivement un livre complexe avec des niveaux différents.
Она была на ярмарке в Сен-Мало как книга о путешествиях.
À Saint-Malo, quand il est allé aux étudiants voyageurs, c'était pris comme un livre de voyage.
Но это не книга о путешествиях. Это она начиналась для меня как экзистенциальная книга, как попытка понять что-то о себе.
Mais c'est pas un livre de voyage. Pour moi, ça a toujours été dès le début une quête de ce qui était le plus essentiel pour moi, une quête de soi-même, comme toute écriture.
Потом, когда я оказался на острове, я понял, что я зачем-то и кем-то послан сюда, я здесь оказался не случайно.
Et quand je me suis retrouvé sur l'île, je me suis rendu compte que j'étais là pas par hasard et que j'étais envoyé par quelqu'un pour faire quelque chose et que c'était pas un hasard que je sois arrivé sur cette île.
Я должен продолжить традицию, которая начала была начало ей положил не я, но каждый 80 или 90 лет кто-нибудь пишет об этом острове. И я должен оставить очередное свидетельство об этих людях, об этой природе, об этой земле, о том, что я вообще думаю об этом, о планете, оказавшись на верхушке там, около полюса.
И que je me suis rendu compte que j'étais rentré dans une lignée de gens qui une fois par siècle, à peu près, arrivaient sur cette île et la comptaient. Et que je devais prendre cette responsabilité de compter cette île, de la raconter, de témoigner pour les gens qui étaient là, pour la nature qui était là, pour la place qu'avait pris cette île, et qui était une espèce de morceau de notre planète situé très très au nord, à des endroits les plus signifiants.
Et наконец, это была книга, это, может быть, традиции трубадуров, что-то было сделано такое. Это действительно было путешествие, посвященное женщине и посвященное любви, исполнив, совершив которое, я обретал право вернуться к ней.
Et qu'effectivement, c'était peut-être dans les vieilles traditions, les vraies traditions des troubadours, et que c'était une sorte de marche vers l'aimé. Et qu'il fallait accomplir la marche jusqu'au bout pour avoir la légitimité pour revenir.
Vous savez que c'est amusant parce que Chateaubriand a fait son voyage en Grèce parce qu'une femme qui l'attendait en Espagne, je crois, l'a exigé de lui. Donc.
Тот, кто уходит по желанию женщины, он должен вернуться с подарком, а этим подарком могла стать только книга, потому что я написал, что целью этой экспедиции является слово.
Effectivement, si quelqu'un part avec cette mission, il faut qu'il revienne avec quelque chose.
Avec un cadeau.
Avec un cadeau. Il y a une très belle phrase qui vient dans tous les vieilles épopées. C'est la femme qui lui dit « Va, je ne sais où, et rapporte-moi je ne sais quoi ». Et donc il faut et que pour lui, la seule chose qu'il pouvait ramener, c'était le mot, c'était le sens, et c'est devenu un livre.
Bien. Dans ce livre, moi je trouve qu'il y a des échos de Dante, je ne sais pas s'ils sont voulus, de la Divine Comédie. Par exemple, lorsque vous décrivez les trois portes que franchit le fleuve La Pechora, vous dites la première porte la plus proche est noire, la seconde bleue, la troisième grise, et puis le fleuve semble se jeter dans le ciel. Il y a un petit écho de Dante, est-ce que c'est... par hasard, le hasard n'existant pas. Vous savez ce que disait Champfort du hasard. Il disait « Si le hasard était responsable de tout ce qu'on lui attribue, il s'appellerait Dieu. » Alors, est-ce que c'est par hasard que vous avez des échos de Dante ?
Я скажу так, что здесь не случайно звучат разные эхо. Разные эхи, как это сказать.
Que c'est pas effectivement par hasard que c'est un livre d'écho. Au pluriel. Et Yamagou. Et qu'il faut aussi que vous sachiez que tout ce côté mythique ou ce qui semblerait mythologique en Russie est extraordinairement concret. C'est que ces trois portes étaient effectivement, la première était noire, la deuxième était plus sombre et la troisième était grise et se perdait dans le ciel. Parce que c'était comme ça. C'est pas une image poétique, c'est complètement comme ça.
Est-ce que tout le monde voit ça? Ça, c'est le propre de l'auteur, à mon avis. Oui, parce que vous parlez d'écho, et en effet, c'est une chambre d'écho. Il y a des jeux de miroirs aussi. Tout est dans ce livre, ça se renvoie l'un à l'autre. Et alors, il y a ce qui est un peu déconcertant. D'ailleurs, on n'a pas parlé du pétrole, on n'a pas parlé des forages, on n'a pas parlé de la saleté, de la manière dont tout est abîmé. Vous découvrez aussi, dans cette île de l'Arctique, c'est pas par hasard non plus qu'aujourd'hui, tout est disputé entre l'Amérique, la Russie et le reste, parce que les Nénets, les rois des reines, si l'on peut dire, sont en train de gadouiller dans la boue du pétrole. Et vous dites à un moment donné un passage qu'on peut lire tout à l'heure, mais qui est le portrait d'Alik, je crois il s'appelle, où vous dites, lui, il ne rêve pas de châteaux et de choses, il rêve d'un puits de pétrole. En fait, pour lui, la fortune, ça sera un forage. Est-ce que c'est l'avenir aussi de la planète, selon vous?
Да, Алик, как всегда, мечтал о халяве, грубо говоря. Он хотел, чтобы им отдали их земли, нефтеносные земли сегодня. И он бы мог быть таким принцем тундры, который уезжает, живет на Багамах, приезжает охотиться на гусей. Это не слишком так интересно.
C'était un rêve qui était effectivement le rêve de Ali, c'était qu'on leur rende leur terre, un peu comme les rêves des Indiens d'Amérique du Nord ou du Canada, et qu'ils deviennent une espèce d'émirat, d'émir de ce pétrole, et qu'ils aillent, je ne sais pas, dans quelles îles chaudes, et puis qu'ils reviennent pour chasser les oies. Mais c'est un rêve qui me dit, c'est sans doute signifiant, mais c'est peut-être pas le plus intéressant.
Oui, mais vous dites à un moment donné, parce que vous avez des images qui reviennent, le tireur et le fugitif, c'est-à-dire, ça a dû être très difficile d'ailleurs à traduire.
Hélène, oui, parce que c'est normalement l'archer en russe.
Ah.
Or l'archer ne tire pas, il tire des flèches. C'est-à-dire qu'en russe, j'ai tout le temps dû jouer entre passer sur le tireur quand je ne pouvais pas dire l'archer. Or c'était en même temps le signe, le sagittaire.
Oui, parce que alors voilà, lisez peut-être le passage de Alik.
Alik n'est prince que dans la toundra, arpentant ce bord de mer, ultime bastion avant l'océan arctique, avant-poste en ruine, baigné d'une sombre poésie que le soleil crépusculaire illumine. Nous sommes nés dans le même temps, pour des destins différents, le tireur et le fugitif, moi le visage pâle, lui le nénietz. Jamais il ne nous sera donné de nous comprendre vraiment, tout comme les Blancs ne comprendraient pas les Indiens. Ils s'étonnaient de leur goût pour les breloques à dessous, ne voyant pas ou ne voulant pas voir la profondeur, la connaissance spirituelle que ces peuples ont du monde. J'ai vu Alik attraper un oisillon de bécassine ou de perdrix, courir après lui comme un enfant. Il l'avait pris avec précaution dans sa paume et nous l'avait montré afin que nous puissions le photographier. Sa tendresse était profonde et sincère, et pourtant il était chasseur.
Nous allons nous interrompre quelques minutes et nous reprenons.
Qui ne connaît pas ces évocations insolites de monstres marins, grouillant de mollusques, de crustacés, de grenouilles, de gueules, de requins et autres créatures de la mer, prenant la forme de nez, de bouche ou d'oreilles, pour en faire surgir le portrait allégorique de l'eau. Archimboldo a connu une immense gloire de son vivant. Il avait brillé à la cour impériale des Habsbourg, à Vienne, au XVIe siècle. Puis il était tombé totalement dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle par les surréalistes. Redécouvrez la modernité de ce peintre dans notre émission Carrefour des Arts sur canalacademy.com.
Nous reprenons avec Hélène Châtelain et Vassili Golovanov à propos de l'éloge des voyages insensés qui est publié, j'ai oublié de le dire, chez Verdier dans la collection Slovo de Hélène Châtelain. Vassili, à part le fait de la quête, à part le fait du reportage, parce que votre héros et vous sont journalistes, Hélène a posé aussi la question à un moment donné du fait que vous soyez, vous êtes né en 1960, je crois, donc sous Khrouchtchev, qui n'a pas duré longtemps. Et puis, vous avez connu Brejnev, et puis vous avez connu le chef du KGB, j'oublie son nom, qui est devenu président. Et puis, vous avez connu la chute du mur, mais vous aviez déjà presque 30 ans.
Oui.
Bon. Donc, vous avez été façonné aussi dans l'univers communiste.
Bien sûr.
Est-ce que ce livre correspond, comme le suggère aussi Hélène, à un changement de peau, à savoir comment on peut changer de peau et changer de manière de regarder le monde, de Weltanschauung, comme disent les Allemands. Est-ce que ce livre était aussi une tentative de ce genre?
Bien sûr, et premièrement, ce livre était la tentative de changer la peau. Et самое сложное в этой игре было так построить свое путешествие, чтобы это не было рассказом о коммунизме или посткоммунизме, а чтобы это было реально выходом в другой язык и в другие смыслы.
Et ce qui était le plus, c'est effectivement ce dont vous parlez, donc le désir de changer de peau, mais comme dit Vassili, c'est très très important. C'était pas le débat, était pas communisme et post-communisme. Le débat est ça parce qu'il savait. Et je tiens à le souligner parce que j'ai quand même beaucoup fréquenté les Russes qui sont arrivés ici avant et maintenant. À quel point la tentation occidentale était forte et lui, c'est sans doute le premier qui savait exactement que ce qui allait arriver était terrible. Et que donc le problème n'était pas de changer de peau pour s'adapter. C'est le problème, comme il le dit très justement, c'est que c'était la nécessité vitale de trouver un autre langage.
Mais est-ce que c'est aussi un autre langage que le nôtre? Que le nôtre, veux-je dire, l'Occident, évidemment.
C'est un сложный вопрос, который лучше было бы задать Арману по поводу существования такого западного языка стабильного. Мы все время меняем язык и все время пересекаем его, правильно?
Вы это кто? Вы русский или
все,
вы?
Все. Все плывут по языку, да? Но
подождите, просто... Donc il dit que c'est une question très très difficile. Bon, il se trouve qu'il a rencontré Gatti et qu'il dit que c'est à lui qu'il faut demander ce que ça veut dire d'être toujours...
À qui, pardon?
Il a rencontré Armand Gatti.
Armand Gatti, pardon. Oui.
Et que donc il dit que c'est peut-être à lui qu'il faudrait demander ce que ça suppose d'être tout le temps dans la traversée des langages et qu'on est tous dans cette traversée des langages. Soit on est emporté par un flot, soit si le mot veut être signifiant, il faut qu'il soit dans la traversée, donc en coupant. Comment oui. On peut couper le temps.
Comme un brise-glace. Parce que j'ai pensé en lisant votre livre d'ailleurs à un brise-glace. Je me disais, c'est comme un paquebot. Bon, ça, l'image, c'est un cliché, le paquebot pour un livre. Mais c'est un brise-glace. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avancez au milieu de la glace, que vous cassez la glace, et pour le meilleur et pour le pire. Qu'il y a aussi quand même un viol, le mot est peut-être exagéré, mais qu'il y a un viol d'un certain univers, un viol de vous-même. Il y a quelque chose de très violent aussi dans votre livre, moi je trouve.
Bien sûr, mais j'ai dit déjà que ce livre a quelques niveaux.
Oui.
Et par exemple, dans le niveau numéro 2, je brise la glace et je commence à chercher de nouveau
le sens
nouvel. Может быть, я потому и отправился на север, что экзотика, экзотичность места, экзотичность, так сказать, того, что, с чем я должен был встретиться, мне казалось, и была даже группа такая метафизических географов, которые вот искали новый язык в путешествии. Это легче, это экзотика сама работает на тебя. Но когда в конце первого дня похода я сделал записи в своем дневнике, я написал только 18 строк. Это были первые слова, которые я нашел.
Oui, il dit qu'effectivement, c'est une recherche d'un langage différent. Ça ne veut pas dire changer les mots, ça veut dire changer la relation entre les mots. Il partageait ça avec un groupe qui avait à peu près son âge, qui s'était appelé les géographes métaphysiques. Donc c'était essayer de trouver une autre manière de voyager, une autre manière de bouger, une autre manière de redécouvrir leur pays. Mais que... lui, quand après la première journée d'expédition, il a essayé d'écrire. Il a écrit 18 mots et pas un de plus parce que la question était posée, il n'était absolument pas résolu. Il était posé.
Et quels étaient les 18 mots?
La description de notre premier jour. Mais ce n'était qu'un commencement, parce que à la fin, j'ai trouvé assez de mots pour écrire ce livre-là.
Oui, justement, j'allais dire que vous n'êtes pas sans mots, là.
Non, mais c'est qu'effectivement, je ne sais pas, il en parle d'ailleurs, les petites fleurs violettes, vous savez, qu'effectivement, c'était juste une sorte de catalogue très, très précis pour retrouver les images, les pierres en forme de fromage coupé. C'était juste pour des accroches de mémoire.
Voilà, je voudrais lire quand même un tout petit passage qui est une description aussi. Parce que j'aime bien donner des images de ce livre, parce que c'est tellement difficile de l'imaginer. On n'imagine pas ce livre, on n'arrive pas du tout à le raconter. Alors, il ne faut pas croire qu'il soit illisible, pas du tout, au contraire. Mais il est tellement à rebond et à image que c'est un livre un peu, on peut le comparer, non pas aux Nuits moscovites, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est aussi riche et aussi plein que certains livres comme les Nuits moscovites, la Nuit moscovite ou des choses comme ça. Hein. Je sais pas si, j'espère que la comparaison vous va, parce que Aksionov n'est pas le dernier des écrivains. Alors voilà le passage. Première photocopie de la mémoire, mer, sable, mollusque. Un carbasse au bord de la mer, nous marchons dans l'eau jaune. La toundra est une partition, le début d'un morceau de musique, le son de Kolguev, un son grave, assourdi, quelque peu gelé. Les milliers d'orifices de la toundra, sources, marécages, lacs, des yeux par lesquels la terre regarde le ciel, l'invitent à se refléter dans ses miroirs. Vu de la plaine, le ciel est aussi proche que vu du sommet d'une montagne. Tombes de vieux croyants, semblables aux portes murées, derrière lesquelles les anachorètes se réfugiaient, emportant leurs secrets. Il y a trois rivières des trépassés dans l'île, mais les derniers ascètes ont-ils au moins trouvé la paix ici ? Alors je continue quand même un tout petit peu. Tabac de la Gauloise sacrifié à l'idole. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Hein. Tabac de la Gauloise sacrifié à l'idole. Matin sur les sommets de la Gorelaya. Plaque de glace à l'ombre d'une colline. Myosotis sur le versant bleu du Sirta Sede. Il y a là quelque chose qui manque. Un nom dit. Alors après, ça continue, ça continue. C'est très, très beau. Donc, on a de la peine à s'arrêter. Et d'autre part, alors ça c'est le côté minéral et végétal et paysagiste au fond. Et puis il y a des passages comme le petit passage sur les chamans que je trouve extraordinaire parce que vous parlez des chamans, vous dites comme les hommes de son peuple, alors vous parlez d'un chaman, il fut enterré face contre terre, un chaman n'est pas différent des autres. Simplement, il connaît le secret de choses ignorées qui s'étendent comme le ciel au-dessus des humains et ne peuvent être captées ou exprimées par la parole, bien qu'elles puissent être, comme le ciel, perçues, entendues, voire vues, car elles possèdent des voix qui parlent doucement et des signes cachés. Et à la fin du paragraphe, vous dites « Lorsque l'homme perd sa force et que dans sa faiblesse il devient un être avide, méchant et impatient, sa famille est maudite, la toundra rétrécit, s'appauvrit et devient stérile, telle une mégère alcoolique, la beauté et la vie la quittent. » Alors là, je pense, enfin je ne sais pas si c'est ce que vous auriez choisi, mais je pense que c'est vraiment un exemple de votre style. Et est-ce que vous êtes revenu indemne de cette histoire ? Est-ce que vous êtes déjà prêt à passer à d'autres livres ? Ou est-ce que vous êtes encore un peu dans cet univers?
С тех пор, как я написал эту книгу, я написал еще несколько книг, но эта книга, она останется со мной всегда как такая, как удачная попытка переворота.
J'ai écrit effectivement des récits après quelques livres, mais le livre-là reste pour moi comme une tentative réussie d'un... un retournement complet, enfin d'une c'est pas l'insurrection, c'est pas le voilà, c'est quand on vraiment on retourne tout.
Alors pour mieux poser ma question, est-ce que vous avez le sentiment d'être en train de changer de peau?
Bien sûr. Больше того, когда я закончил книжку, у меня было впечатление нового рождения.
C'est-à-dire quand j'ai fini le livre, j'ai l'impression d'une nouvelle naissance quand j'en suis sorti.
В течение пяти лет я жил в яйце.
Pendant 5 ans, qui était le temps d'écriture, j'ai vécu comme dans un œuf.
Там я так развивался в этих смыслах, которые я добывал на острове. Вот, а потом я должен был выйти с этой книгой готовый уже.
Et donc j'étais à l'intérieur.
Скорлупу и выйти
j'étais
как цыплёнок.
J'étais à l'intérieur de cet œuf, à la recherche de tous ces sens que je devais faire, dont je devais accoucher en gros. Et puis à un moment, il a fallu briser la coquille et sortir avec le livre, comme ça, quoi, le livre écrit.
Pour vous, Hélène, vous avez dans votre collection, vous avez peu d'auteurs finalement, vous avez beaucoup sorti de... peu d'auteurs différents, je veux dire. Vous avez, par exemple, sorti beaucoup de livres de Chalamov, qui est un des, à mon avis, des plus grands auteurs.
C'est notre gloire. Vous savez que, quand je suis rentrée d'un périple assez long en Russie, où Chalamov a été mon compagnon indispensable. Et donc j'étais voir les éditeurs qui ici, parce qu'il y avait déjà en Russie commencé à avoir des œuvres complètes qui étaient en train de se mettre en place. Et j'étais voir les éditeurs ici, dont les plus grands. Et tous m'ont dit, nous ne republions pas parce qu'il n'y a pas ici le public pour ce livre. J'étais absolument plus, j'arrivais un peu sauvage quand même.
Vous rappelez que c'est le récit de la Colima, hein. Bon, rappeler pour les gens qui ne
C'est le récit de la Colima, donc il n'y avait pas le public suffisant pour ce livre. Et donc j'ai été voir Verdi, j'ai dit voilà, on prend tout, on prend tout. Et c'est plus qu'un honneur, enfin, c'est une mission.
Et alors ce qui est intéressant, c'est que donc vous passez de Chalamov à Golovanov. Est-ce que pour vous, c'est une... Il y a une filiation, oui. Il y a une filiation de la pensée, bien sûr, et de l'évolution d'une certaine littérature russe.
C'est-à-dire que moi, je suis un peu un canard sauvage, moi, dans ces histoires. Et c'est vrai que cette collection, pour moi, c'est comme les pierres qui permettent de traverser un gué, pour moi aussi. Et que la question fondamentale du mot et du langage, qui fait la force de Vassili, et sur un autre plan, qui fait la force absolument incroyable de Chalamov, qui n'est pas reculé d'un pas pendant et c'est stupéfiant.
Rappelez en deux mots qui est Chalamov.
Chalamov, c'est le fils d'un prêtre progressiste qui était en mission dans les îles Aléoutiennes.
Encore une île,
oui. Et puis il s'est retrouvé à Vologda, qui est une ville du nord, un peu comme ça, rude. Donc c'était un môme. Bon, les printemps à Vologda, c'est vraiment une épreuve, quoi. Il faut faire attention que tout ne disparaisse pas sous l'eau. Et il voulait écrire, il voulait faire des études. Et puis son père était donc prêtre progressiste. Il y en avait pas mal à l'époque, quand même, hein, qui disait que l'Église orthodoxe, celle qui était absolument insupportable. Et donc il l'a emmené au premier meeting en 17, ils faisaient tout, et puis ils sont arrivés les gens du nouveau pouvoir, et que comme il était fils de peuple, donc il était interdit d'études supérieures, ce qui l'a mis dans un état de rage absolu. Il est allé à Moscou, et là il a effectivement fait des études, parce qu'il voulait devenir écrivain. Et les gens qui disent que Chalamov est devenu écrivain parce que le camp l'a pris, c'est une erreur, et il le dit. C'était vraiment sa question, sa question primordiale, c'était le mot « comment ». Donc il était arrêté une fois. Pour lui, c'était presque un honneur historique à l'époque. Donc il a pris 3 ans. Pas au Solovki, dans un camp au bout du monde, qui était encore un vieux bagne comme avant. Et puis après, il est retourné, il a recommencé à écrire. Et puis, il est tombé dans la marmite des années 37. Et là, donc, il a eu 17 ans. 10 ans plus 7 ans. Il a tenu, d'abord, ce qui était très, 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 très costaud physiquement. Il a tenu surtout sur des choses fondamentales pour lesquelles, d'ailleurs, les gens de Magadan que j'ai vus, ils ont peur de Chalamov. Parce qu'il a toujours dit qu'il était absolument impossible de pactiser avec, on appelle la pègre, que c'était mortel. Et quand on est dans le camp, les baraques de camp, c'est voilà quoi, c'est compliqué. Et donc, il a une espèce de structure interne qui est une structure... presque archéologique. Enfin, c'est incroyable à quel point, moi, par exemple, quand il a écrit en rentrant, il avait 70 ans, il avait ses 17 ans derrière, sa fille avait dit à sa mère qu'il avait attendu, que je ne veux pas vivre un ennemi du peuple, donc maman, tu choisis entre moi et lui, et puis la mère a choisi la fille. Donc c'est, voilà, quoi. On lui a demandé un livre sur le Moscou des années 20. Et c'est un livre incroyable. Parce qu'il est écrit à 70 ans, après 17 ans de camp, et c'est un livre d'un jeune homme de 20 ans.
Et de camp terrible. Et de camp...
Les camps les plus froids, quoi.
Oui.
Les plus froids.
Un des camps les plus terribles. Alors, voilà. Avant la pause, je voulais savoir aussi, Vassili, qu'est-ce que ça représente pour vous de succéder dans cette collection à Chalamov? Est-ce que pour vous, c'est antique, Chalamov, ou est-ce que c'est un écrivain dont vous reconnaissez la... parenté ou la filiation? Et est-ce qu'il y en a d'autres aussi aujourd'hui en Russie? Alors, d'abord Chalamov.
Ну, я очень ценю Шаламова, потому что я прекрасно понимаю то, о чем он пишет, и сам я по грудь вырос в коммунизме, вот, так сказать, вот, из коммунизма.
Je respecte immensément Shalamov parce qu'en gros, je suis venu de. Je comprends complètement de quoi il parle. Parce qu'on était tous la poitrine dans ce.
Oui, il a fait le signe que la poitrine. Ils sont pris jusqu'à la poitrine, oui. Dans la glace du communisme. Dans la
il n'a pas dit la glace. Hein? Il n'a pas dit glace.
Non, il n'a pas dit glace. Moi, c'est moi qui. C'est oui. Ma projection. Oui.
Et. Я думаю просто, что Шаламов, он. Не мог продвинуться дальше того, о чем он писал. То есть для него разрушение этой структуры, оно было главным. И разрушение на уровне языка, на уровне отторжения личного от всего, что его окружало, так сказать, от структуры офисели, союз писателей, там и так далее. Он же катастрофически умер, так сказать.
Да. Non, il dit qu'effectivement, la lutte qu'a eu à tenir Shalamov, même après, quand il est revenu, tous les gens des camps qui sont revenus, comme toujours les gens des camps, c'était des gens en trop pour la société qui les attendait. Et qui les attendait pas du tout, d'ailleurs.
Vassili, vous parliez d'écrivains, des géographes métaphysiques. Qui appelez-vous comme cela? Quels sont vos parents, si je puis dire, dans l'univers des écrivains? Nous pensons par exemple tout de suite à Borges. Est-ce que c'est quelque chose de ce genre?
Я, когда я говорю о метафизических географах, об этом круге людей, я имею прежде всего в виду своих друзей, которым около 45 лет.
Quand je parle des géographes métaphysiques, ce petit groupe que nous formions, je pense à mes amis qui ont à peu près 45 ans, enfin c'est ma génération.
А 10 лет назад им было 35 ou 30.
Et que 10 ans avant, ben, ils avaient 35 ans ou 30.
Разумеется, эта группа, она возникла не сама по себе, она возникла тогда, когда стало возможным читать и Борхеса, в том числе, и много другой литературы.
Et que ce groupe n'est pas venu de n'importe quoi, puis il est venu à un moment où, effectivement, il y avait brusquement possibilité de vraiment lire Borges et tous ces écrivains-là qui, jusqu'à présent, faisaient pas partie de leur bagage.
Est-ce que ce sont des écrivains aussi, vos amis en question?
Они не обязательно профессиональные писатели. В таком...
Que ce sont tous des écrivains dits professionnels.
Alors, est-ce que dans les écrivains d'aujourd'hui, nous sommes très ignorants sur les écrivains russes en France, souvent. Donc, est-ce que vous vous sentez des parentés avec Vassili Aksionov, avec Ludmila Ulitskaya? Ou même à la génération vraiment suivante avec Irina Denshkina, c'est ça? La génération Vodka-Cola. Est-ce que c'est encore d'autres écrivains qui vous intéressent en Russie?
Bien sûr, d'autres. Parce que pour moi, même Aksionov, c'est la conscience très vieille, le langage très vieux, oui. Il me semble qu'à l'époque de l'Union soviétique, seulement deux personnes qui ont réussi, только двоим удалось создать свои миры, создать параллельные миры, миры параллельные с коммунизму и, то есть полностью свободные.
Dire qu'il y a pour moi, il y a deux écrivains qui ont réussi à se créer un monde réellement parallèle, en fait différent du monde dans lequel ils vivaient, qui était le monde officiel ou comme nous, quoi, enfin le monde là, quoi.
Я думаю, что одного здесь должны знать, это Саша Соколов.
Саша Соколов, oui.
И Анатолий Ким.
И Ким, Анатолий Ким. Qui a...
Qui sont traduits, hein? Il est traduit, Ким?
Ким, oui, je crois qu'il est traduit, oui.
Oui. Mais je crois que de toute façon, il va faire sa collection. Vous allez faire une collection, vous, chez Verdier, non? Avec des écrivains contemporains.
Non, бесполезно сейчас, может быть, перечислять имена, которые
писатели, которых я был. de faire la liste de noms auxquels il pense, là, parce que c'est un processus qui est en cours, là.
Non, ce n'est pas la liste des noms. Simplement, quel est le maintenant? Qu'est-ce qui vous touche? Voilà, on va faire ça plus généralement. Qu'est-ce qui vous touche dans la littérature russe d'aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une rupture? Il y a eu les années soviétiques, comme vous le dites. Après, il y a eu les années où tout le monde, avec plus ou moins d'humour, racontait la décadence, l'horreur, la boue, le vodka-cola, etc. Maintenant, il semble qu'il y ait une toute autre littérature russe. Est-ce que c'est le cas?
Меня в русской литературе интересует прежде всего то, что чем она славилась и ну издавна, как русская литература. Я не говорю о советской. Это может быть совесть, искренность. Hélène, переведите, moi, je...
Да-да.
Потому что я...
En gros, moi, ce qui pour moi a fait la grandeur d'une littérature, la littérature russe en particulier, c'est l'honnêteté, c'est la conscience d'être ce qu'on est, de le dire.
Я вообще исхожу из представления о насущности литературы. То есть это должна быть вещь необходимая.
Je viens d'un monde pour lequel la littérature est une pitance, doit être indispensable. Sans ça, elle n'est pas. Ça, c'est moi qui l'ajoute.
Oui, oui, oui.
А большинство писателей, с которыми приходится иметь дело нам, и вообще мне не приходится иметь с ними дело. Но на Западе их переводят и читают. Это избыток, причем это очень жидкая вода. Эти ужасы, это эффекты.
C'est-à-dire que pour lui, la littérature qui est traduite ici, c'est pas la littérature, c'est une manière de se mettre dans le flot en parlant effectivement des horreurs, de tout ce qui peut se passer. Mais pour lui, c'est comme de l'eau, quoi. C'est pas
consistant.
C'est pas consistant. Il y a pas de consistance pour lui, de consistance profonde et de nécessité impérieuse.
Donc pour vous, pour reprendre un mot très éculé qu'on cite tout le temps plutôt de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde, vous savez. Pour vous, c'est la littérature qui garde le monde.
La résistance.
Ça résiste au monde.
Non, il dit ce qui sauve le monde, c'est la résistance. Ce qui sauve le monde, c'est la résistance.
Et par les mots.
Aussi par les mots, oui.
J'aurais voulu, si c'était possible, que vous lisiez le dernier petit passage qui est l'histoire des Cides. Alors, ça n'est pas vraiment de Golovanov. Mais je trouve bien que ce livre finisse sur l'histoire de... Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on finisse sur les Cides?
Bien sûr, parce que c'est la part de ce livre-là. J'ai construit ce livre comme... я хотел, чтобы в последней части были представлены тексты, которые рассказаны об этом острове не мной, и чтобы обнаружились связи гораздо более глубокие во времени и в пространстве, так сказать.
Et que moi je voulais que finir ce livre avec des textes qui n'étaient pas les miens, mais des textes qui ouvraient sur des liens et sur des relations beaucoup plus profondes et beaucoup plus antiques. Il faut juste deux petits mots avant de, je crois, très très bref, hein, c'est que l'histoire des Cides est une histoire absolument incroyable parce que c'est d'abord la preuve réelle que des civilisations qui vivaient complètement dans des temps parallèles, c'était des vraies cultures et des vraies civilisations. Que toute l'histoire du Graal, c'est une récupération de la chrétienté, de choses qui les dépassaient largement. Et que pour moi, ça a été une découverte incroyable. Effectivement, que tout ça basculant dans l'histoire du conte, mais que l'histoire de cette culture qui
s'est... Cides, ce que c'est que les Cides d'ailleurs.
Mais les Cides, c'est effectivement une population de gens qui étaient assez proches des Celtes, puisqu'ils étaient roux. Et donc, voir des Celtes dans l'Arctique,
c'était... C'est une drôle d'explication, parce qu'ils étaient roux.
Non, ils étaient roux, virgule, ils
oui.
étaient roux, point.
Oui, d'accord.
Ils n'étaient pas comme les Lapons, ils n'étaient pas comme les Esquimaux. C'est effectivement des peuples autres qui ont laissé des traces. Et ça, ce qui est formidable aussi, pour moi, dans le livre, c'est qu'il a eu la chance de trouver des gens qui étaient à juste une génération avant des ahistoriques. Des gens qui avaient un rapport avec ce que nous appelons le mythe ou les choses, mais d'une manière totalement concrète. Et ça, c'est rarissime. Ça, c'est des perles précieuses.
Oui, d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant dans le livre, hein.
Et ça, moi je viens quand même du Musée de l'Homme, quoi. Donc pour moi ça a été incroyablement stupéfiant.
Et puis les rencontres font partie du talent d'ailleurs. Non mais dans ce livre, c'est vraiment visible. Alors je dis un tout petit passage parce qu'on ne peut pas tout lire, mais je conseille vraiment d'acheter l'éloge des voyages insensés parce que ça vous ferait un voyage insensé, plusieurs voyages insensés. Alors voilà pour les cides. Le passage, puisque Hélène Unchâtelain vient d'expliquer ce qu'étaient les cides. La version cinématographique de l'histoire du roi Arthur se termine par sa mort et ses fastueuses funérailles. Merlin n'y figure absolument pas. La civilisation moderne n'a plus besoin d'un roi qui dort. Peu lui importe l'idée d'un espace-temps paradoxal, à l'unification duquel aspiraient le Moyen-Âge et la Renaissance, qui est beaucoup plus proche du Moyen-Âge que nous ne le croyons. Les temps nouveaux ont construit une parade contre l'escamotage du chronotope celte. Le cheminement mythologique de la conscience a laissé place à une démarche historique. Le temps est devenu définitivement linéaire et l'espace, décrété à trois dimensions, a été systématiquement divisé et soigneusement étudié à l'intérieur de ses limites. À Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle, l'exposition des singes éventrés pour permettre une vision d'ensemble des entrailles, singes qui rendirent de fiers services au génie avide de savoir de l'humanité, les coupes histologiques, les crânes bien rangés dans leur tiroir, sont l'apothéose du déterminisme du XIXe siècle. Alors, ça continue bien sûr, mais je lis un autre petit passage. Il est impossible de convier l'humanité à oublier toute l'histoire pour revenir à une pensée mythologique, que les enfants soient élevés dans des éprouvettes puisqu'on ne peut faire autrement, que des avions qui pèsent des tonnes atterrissent sans encombre et tout le reste soit, mais laissons au moins Arthur en paix, qu'il dorme en attendant mieux. Finalement, dormir est le propre de l'homme, et nul ne peut expliquer où s'échappe notre temps, pour le compte de quoi, de qui, se déploient devant nous les espaces infinis du rêve. Alors, Vassili Golovanov, est-ce que vous pensez que dormir est le propre de l'homme, du moins à la manière de Shakespeare, dormir, rêver peut-être?
Peut-être que toute cette aventure avec l'île était un rêve. C'était un rêve.
Mais vous êtes réveillé maintenant, non?
Il me semble que oui.
Peut-être sommes-nous un rêve de vous?
C'est la question de la haute.
Bon, Vassili Golovanov, je vous remercie. C'est donc l'éloge des voyages insensés paru chez Verdier avec Vassili Golovanov, l'auteur, Hélène Châtelain, la traductrice, directrice de collection. Et merci d'avoir partagé ce rêve.
Merci.
Merci.